populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Chapitre 1. Christophe Colomb, les Indiens et le progrès de l'humanité.
Deuxième partie. L'historien ne peut pas ne pas insister sur certains événements au détriment des autres. C'est pour lui aussi naturel que pour le cartographe qui, afin de produire un document utile dans la pratique, doit d'abord aplanir et distordre la forme du globe avant de sélectionner dans la masse impressionnante des données géographiques les éléments indispensables à tel ou tel usage particulier d'une carte. Je ne discute pas le travail nécessaire de sélection, de simplification et de mise en valeur des faits, aussi incontournable pour l'historien que pour le cartographe. Néanmoins, si la déformation du cartographe est d'ordre technique et répond aux besoins communs de tous ceux qui utilisent des cartes, celle de l'historien est non seulement technique, mais également idéologique. Elle s'inscrit dans un univers où divers intérêts s'affrontent. Ainsi, tout accent mis sur tel ou tel événement sert, que l'historien en soit ou non conscient, des intérêts particuliers d'ordre économique, politique, racial, national ou sexuel. En outre, au contraire des objectifs techniques du cartographe, les intérêts idéologiques de l'historien sont souvent implicites. En histoire, le travail est présenté comme si tous les lecteurs d'ouvrages historiques partageaient un intérêt commun que l'historien servirait au mieux de ses capacités. Il ne s'agit pas d'une manipulation délibérée. L'historien a été formé dans une société où l'enseignement et le savoir sont présentés comme des notions techniques par excellence et non comme des outils de lutte entre classes sociales, races ou nations. Mettre l'accent sur l'héroïsme de Christophe Colomb et de ses successeurs en tant que navigateurs et découvreurs, en évoquant en passant le génocide qu'ils ont perpétré, n'est pas une nécessité technique, mais un choix idéologique. Et ce choix sert, involontairement, à justifier ce qui a été fait. Je ne prétends pas qu'il faille, en faisant l'histoire, accuser, juger et condamner Christophe Colomb par contumace. Il est trop tard pour cette leçon de morale, aussi scolaire qu'inutile. Ce qu'il faut en revanche condamner, c'est la facilité avec laquelle on assume ces atrocités comme étant le prix, certes regrettable, mais nécessaire, à payer pour assurer le progrès de l'humanité. Hiroshima et le Vietnam pour sauver la civilisation occidentale, Kronstadt et la Hongrie pour sauver le socialisme, la prolifération nucléaire pour sauver tout le monde. Nous avons appris à fondre ces atrocités dans la masse des faits, comme nous enfouissons dans le sol nos containers de déchets radioactifs. Bref, nous avons appris à leur accorder exactement autant de place que celle qu'ils occupent dans les cours et les manuels d'histoire prescrits et écrits par les professeurs. Appliqué avec une apparente objectivité par les universitaires, ce relativisme moral nous paraît plus acceptable que s'il l'était par des politiciens au cours de conférences de presse. C'est pourquoi il est d'autant plus dangereux. La mémoire des États n'est résolument pas la nôtre. Les nations ne sont pas des communautés et ne l'ont jamais été. L'histoire de n'importe quel pays, présentée comme une histoire de famille, dissimule les plus âpres conflits d'intérêts, qui parfois éclatent au grand jour et sont le plus souvent réprimés, entre les conquérants et les populations soumises, les maîtres et les esclaves, les capitalistes et les travailleurs, les dominants et les dominés, qu'ils le soient pour des raisons de race ou de sexe. Dans un monde aussi conflictuel, où victimes et bourreaux s'affrontent, il est, comme le disait Albert Camus, du devoir des intellectuels de ne pas se ranger aux côtés des bourreaux. Ainsi, puisque le choix de certains événements et l'importance qui leur est accordée signalent inévitablement le parti pris de l'historien, je préfère tenter de dire l'histoire de la découverte de l'Amérique du point de vue des Arawaks, l'histoire de la Constitution du point de vue des esclaves, celle d'Andrew Jackson vue par les Cherokees, la guerre de sécession par les Irlandais de New York, celle contre le Mexique par les déserteurs de l'armée de Scott, l'essor industriel à travers le regard d'une jeune femme des ateliers textiles de Lowell, la guerre hispano-américaine à travers celui des Cubains, la conquête des Philippines telle qu'en témoignent les soldats noirs de Luzon, l'âge d'or par les fermiers du Sud, la Première Guerre mondiale par les socialistes et la suivante par les pacifistes, le New Deal par les Noirs de Harlem, l'impérialisme américain de l'après-guerre par les péons d'Amérique latine, etc. Tout cela, bien sûr, si tant est que quiconque, et quels que soient les efforts qu'il y consacre, puisse effectivement voir l'histoire en épousant le point de vue des autres. Ce n'est pas dans mon propos de me lamenter sur les victimes et de stigmatiser les bourreaux. Les larmes et la colère, lorsqu'elles ont pour objet les événements du passé, ne peuvent que nuire à la combativité qu'exige le présent. En outre, les frontières ne sont pas toujours clairement délimitées. Sur le long terme, l'oppresseur est aussi une victime. Sur le court terme, et jusqu'ici, semble-t-il, l'histoire de l'humanité n'a jamais été qu'une question de court terme, les victimes elles-mêmes, exaspérés et inspirés par la culture qui les opprime, se retournent contre d'autres victimes. Je n'entends pas inventer des victoires au bénéfice des mouvements populaires. Cependant, si écrire l'histoire se réduisait à dresser la liste des échecs passés, l'historien ne serait plus que le collaborateur d'un cycle infini de défaites. Une histoire qui se veut créative et souhaite envisager un futur possible, sans pour autant trahir le passé, devrait, selon moi, ouvrir de nouvelles possibilités en exhumant ces épisodes du passé laissés dans l'ombre et au cours desquels, même si ce fut trop brièvement, les individus ont su faire preuve de leur capacité à résister, à s'unir et parfois même à l'emporter. Je suppose, ou j'espère, que notre avenir sera plus à l'image de ces brefs moments de solidarité qu'à celle des guerres interminables. Voilà, en toute honnêteté, ce que sera mon approche de l'histoire des États-Unis. Le lecteur devait la connaître avant de poursuivre sa lecture. Dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord, en 1585, alors qu'il n'y avait pas encore d'implantation anglaise permanente en Virginie, Richard Granville et ses 7 navires y accostèrent. Les Indiens qu'il y rencontra se montrèrent hospitaliers. Pourtant, quand l'un d'eux s'avisa de dérober une petite tasse en argent, Granville pilla et incendia le village. La ville de Jamestown fut édifiée sur le territoire d'une confédération indienne conduite par le chef Powhatan. Celui-ci assista, impassible, à l'installation de la colonie anglaise sur les terres de son peuple et n'attaqua pas les colons. Au cours de l'hiver 1610, ces derniers connurent le temps de la famine et certains d'entre eux coururent chez les Indiens qui pouvaient au moins les nourrir. Lorsque l'été revint, le gouverneur de la colonie fit demander à Powhatan de restituer les fugitifs. Le chef indien, selon les propres récits des Anglais, n'exprima en réponse à cette demande que des propos pleins d'arrogance et de mépris. Un groupe de soldats fut alors chargé de prendre une revanche. Ils attaquèrent un village, tuèrent une quinzaine d'Indiens, brûlèrent les habitations et saccagèrent les cultures de maïs. Ensuite, ils se saisirent de la reine de la tribu et de ses enfants, les firent monter dans leur embarcation et, pour finir, jetèrent les enfants par-dessus bord en leur faisant sauter la cervelle tandis qu'ils étaient dans l'eau. Enfin, la reine fut emmenée et poignardée. 12 ans plus tard. Effrayés de voir se multiplier les colonies anglaises, les Indiens décidèrent, semble-t-il, de s'en débarrasser une fois pour toutes. Ils massacrèrent 347 personnes, hommes, femmes et enfants. Ce fut alors la guerre totale. Incapables de réduire les Indiens en esclavage ou de vivre en bonne entente avec eux, les Anglais décidèrent de les exterminer. Edmund Morgan écrit dans son Histoire des premières années de la Virginie
« Comme les Indiens connaissaient parfaitement les forêts et étaient, dans ces conditions, pratiquement impossibles à poursuivre, il fut décidé de simuler les intentions pacifiques, de les laisser s'installer tranquillement quelque part et planter leur maïs où ils le souhaitaient, puis de leur tomber dessus, juste avant la récolte, d'en tuer autant que possible et de brûler les cultures. » Deux ou trois ans après le massacre, les Anglais avaient eu l'occasion de venger plus d'une fois leur mort.
En 1607, première année de la présence des Blancs en Virginie, Powhatan avait adressé à John Smith une supplique qui se révélerait prophétique. On peut douter de l'authenticité de ce texte, mais il s'apparente tant à d'autres déclarations indiennes qu'il est sans doute assez proche, sinon de la lettre, du moins de l'esprit de cette première supplique.
J'ai vu mourir deux générations de mon peuple. Je connais mieux que n'importe quel homme vivant dans mon pays la différence entre la paix et la guerre. À présent, je suis vieux et je vais mourir bientôt. Ce sont mes frères, Opitchapan, Opechancanou et Katatou, qui hériteront de mon autorité. Puis viendront mes deux sœurs, puis mes deux filles. Je leur souhaite d'en savoir autant que moi et que votre affection envers eux puisse être de même nature que celle que je vous porte. Pourquoi prendriez-vous par la force ce que vous pouvez obtenir simplement par l'amitié? Pourquoi nous détruiriez-vous, nous qui vous nourrissons? Que pouvez-vous obtenir par la guerre? Nous pouvons cacher nos provisions et nous enfuir dans les bois. Alors vous mourrez pour avoir injustement traité vos amis. Pourquoi nous en vouloir? Nous sommes sans armes et désireux de vous donner ce que vous voulez si vous nous le demandez amicalement. Je ne suis pas stupide au point d'ignorer qu'il est préférable de manger de bons repas, de dormir confortablement, de vivre tranquillement avec mes femmes et mes enfants, de rire et vivre en bonne entente avec les Anglais, d'obtenir d'eux leur cuivre et leur hache, plutôt que de toujours les fuir, dormir dans le froid des forêts, me nourrir de glands, de racines et autres saletés, et être si souvent pourchassé que je ne puis plus ni dormir ni manger. Dans cette guerre, mes hommes doivent toujours être sur le qui-vive, et lorsqu'une brindille craque, ils se mettent à hurler. C'est le capitaine Smith! C'est ainsi que je vais finir ma misérable vie. Déposez vos fusils et vos épées, cause de notre mésentente, où vous pourriez bien mourir de la même manière.
Y avait-il effectivement 3 millions d'Indiens? Ou moins d'un million, selon certains historiens? Ou 8 millions, selon certains autres? Pourtant, à en croire les manuels d'histoire fournis aux élèves américains, tout commence par une épopée héroïque. Nulle mention des bains de sang. Et nous célébrons, aujourd'hui encore, le Columbus Day. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Par Howard Zinn.